Bien, le silence qui se fait indique que l'heure est venue de commencer. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 16e soirée, on n'en est pas encore à la 60e, cette 16e soirée d'éthique publique des facultés jésuites de Paris, la 7e de cette année universitaire. Je suis heureux de vous accueillir ce soir après ces jours saints et dans l'élan pascal, on espère que pour l'Europe il en sera de même. Bienvenue particulièrement à ceux qui viennent pour la première fois et qui découvrent cet espace de rencontre et d'échange. Ce soir encore, comme chaque premier mardi de chaque mois, l'objectif est de nous retrouver autour d'une question qui, de près ou de loin, concerne notre rapport à la vie publique, sociale, politique, professionnelle, internationale, pour mettre en lumière un certain nombre d'éléments de compréhension, d'analyse, puis éventuellement repérer un certain nombre de critères ou de pistes pour nous situer face aux enjeux, des pistes aussi pour continuer notre propre réflexion personnelle et avec d'autres. Le point de départ est, ceux qui sont familiers ici le savent bien, la parole de deux personnes généralement qui vont partager simplement et en confiance comment ils perçoivent les enjeux de cette réalité. Leur parole veut ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions. Et je vous rappelle qu'il est possible d'écouter, de réécouter dès le lendemain, dès demain, l'enregistrement de la soirée sur le site internet du Centre Sèvres. Il y a un mois, nous avons réfléchi sur la situation iranienne. C'était une soirée très intéressante. Ce soir, c'est l'Europe qui nous intéresse, qui nous préoccupe aussi. Ce n'est pas la première fois que l'on fait un constat sombre d'un projet européen qui semble en panne à certains moments. L'Europe ne fait plus rêver, ne mobilise plus comme elle a pu le faire ces 50 dernières années. Comment en est-on arrivé là? Les raisons sont sans doute multiples et chacun sera sensible à tel ou tel élément. On évoque souvent le déficit démocratique de cette construction européenne, une Europe jugée trop bureaucratique, trop lointaine et qui aurait tendance à vouloir harmoniser, certains diront uniformiser, sans tenir compte des réalités et des spécificités nationales, locales. Une Europe jugée trop libérale pour les uns, trop sociale pour les autres, une Europe qui peine à exister politiquement et à parler d'une seule voix sur la scène internationale, une Europe vieillissante et qui s'essouffle économiquement, une Europe parfois desservie par des classes politiques nationales qui lui imputent un peu toutes les difficultés du moment, une Europe qui se replie frileusement sur elle-même et sur ses identités nationales et régionales à l'heure d'une mondialisation souvent perçue comme inquiétante, une Europe qui a aussi du mal à se fixer ses propres frontières. Sombre constat, on pourrait sûrement compléter la liste de l'état actuel de l'Europe qui semble reléguer très loin les projets des pères fondateurs, de Robert Schuman, de Jean Monnet, d'Alcide de Gasperi, de Paul-Henri Spaak, de Konrad Adenauer et bien d'autres. Ce projet que certains à l'époque appelaient l'Europe Vaticane, tant était grand l'engagement des chrétiens, de beaucoup de chrétiens dans ce projet européen. Aujourd'hui, on oublie sans doute facilement le chemin parcouru et les grands avantages que nous tirons de tout ce qui a été accompli dans cette construction européenne, à commencer par cet espace de paix, de prospérité et de démocratie qui ne cesse d'attirer. Mais comment continuer? Où va l'Europe? Quelle Europe, finalement, nous voulons les uns et les autres? Alors, pour nous aider à avancer sur ces questions fondamentales, je suis honoré et très heureux d'accueillir deux grandes personnalités. Alors, vous allez me dire, c'est toujours le cas dans ces soirées d'éthique publique, mais enfin, ce soir, c'est plus particulièrement encore. Absolument. Deux grands spécialistes et artisans de cette construction européenne pour laquelle ils continuent d'œuvrer. C'est une grande joie de vous accueillir et de vous retrouver, Monsieur Tommaso Padoa-Schioppa, Difficile de vous présenter en quelques mots, tant votre parcours est riche, marqué par un engagement sans faille au service de votre pays, l'Italie, et de l'Europe. Vous êtes né en 1940 en Vénétie. Votre formation d'économiste réputée et reconnue va vous conduire à occuper des postes de haute responsabilité dans des domaines économiques et financiers. Et je ne fais qu'en nommer quelques-uns sous votre contrôle. Conseiller de l'Institut pour les affaires internationales à Rome, directeur général pour l'économie et les affaires financières de la Commission des communautés européennes de 1979 à 1983, directeur général adjoint de la Banque d'Italie de 1984 à 1997, président de la Commission nationale pour la société et la bourse de 1997 à 1998, membre du directoire de la Banque centrale européenne de 1998 à 2005, ministre de l'économie et des finances du gouvernement de M. Prodi de mai 2006 à mai 2008. Vous êtes élu en octobre 2007 président du comité des ministres du FMI, du Fonds monétaire international, en remplacement de l'ancien chancelier de l'échiquier britannique, Gordon Brown, devenu Premier ministre. Tous les observateurs estiment que vous avez joué un rôle central, très important dans la création de l'euro et dans la conception de la Banque Centrale Européenne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, articles, dont parmi les plus récents, ce livre d'entretien avec Beda Romano, Contre la courte vue, entretien sur le grand crack, qui est paru aux éditions Odile Jacob en 2009. Et nous avons tous lu, évidemment, le compte rendu de lecture dans le numéro de mars de l'excellente revue Études. Proche de Jacques Delors, vous avez accepté de présider le groupe de réflexion qu'il avait fondé, Notre Europe, think tank reconnu pour la qualité de ses travaux et qui participe activement au débat européen comme force de proposition. Vous aimez la France et Paris. Et vous y séjournez souvent, et nous sommes particulièrement heureux que vous ayez accepté d'être avec nous ce soir. Alors, pour échanger avec vous, Monsieur Jean-Louis Bourlange, que vous connaissez bien, bien connu aussi du paysage politique français et de tous ceux qui écoutent France Culture le dimanche matin, l'émission L'Esprit Public. Bon, c'est l'heure de la messe ici à Saint-Ignace, mais enfin, on peut...
Je sais couper mon truc.
Oui, ben je vais peut-être couper le mien aussi, alors.
Voilà. Je crois que j'ai réussi. La technologie et moi, c'est généralement la technologie qui gagne.
Vous êtes né en 1946, diplômé de Sciences Po, agrégé de lettres modernes, énarque. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont en 1988, un ouvrage qui avait été très remarqué à l'époque sur l'état de la droite française, Droite année zéro. Attaché à votre Normandie, vous vous y engagez politiquement, conseiller municipal de Dieppe de 1983 à 1989, conseiller régional de Haute-Normandie de 1986 à 1998. Vos convictions européennes vous conduisent sur la liste de Simone Veil pour les élections européennes en 1989. Élu au Parlement européen, vous serez réélu en 1914, sur la liste de Dominique Baudis et en 1999 sur celle de François Bayrou. Vous avez entre autres été président de la commission du contrôle budgétaire en 1984
sur la mienne.
J'y arrivais. En 1993 et 94, donc président de la commission du contrôle budgétaire, rapporteur du budget général de l'Union pour l'année 2000, rapporteur sur la hiérarchie des normes et la typologie des actes de l'Union en 2002 et président de la commission parlementaire mixte Union européenne-Pologne. En 2004, vous êtes tête de liste aux élections européennes dans le nord-ouest de la France. Vous continuez donc votre engagement européen. Vous êtes réélu député. Vous serez président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et membre suppléant de la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen. Et en 2005, vous faites campagne pour le oui au référendum sur le traité constitutionnel. En juillet 2007, vous êtes nommé au comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions mis en place par le président de la République, Nicolas Sarkozy. vous assurerez la présidence de la section française du mouvement européen. Et puis en décembre 2007, vous laissez votre mandat de député européen. Est-ce par lassitude de l'engagement européen? Vous nous le direz tout à l'heure. Et vous retrouvez la Cour de compte où vous êtes conseiller maître. Vous avez enseigné en France, aux États-Unis. Depuis plusieurs années, vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Paris où vous donnez un cours sur s'il n'a pas changé système et vie politique dans l'Union européenne. Et puis vous êtes membre du conseil d'administration de Notre Europe où vous retrouvez Monsieur Padoa-Schioppa. Vous avez tous deux ce même engagement au service de l'Europe, avec sans doute aussi quand même quelques différences d'approche sur tel ou tel sujet. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Louis Bourlange, d'être parmi nous ce soir pour nous faire profiter de votre expérience et de votre regard aigu sur la réalité européenne. Alors, sans plus attendre, je vais vous laisser la parole pour 15-20 minutes environ chacun, comme nous en avons l'habitude, avant d'engager le débat tous ensemble. Dans quel état est l'Europe aujourd'hui? Comment finalement en est-on arrivé à cette situation? Et comment envisager l'avenir? Quelle Europe voulons-nous? Je donne d'abord la parole à Monsieur Tommaso Padoa-Schioppa.
Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité à m'adresser au centre. Je remercie le centre et j'espère pouvoir contribuer au débat de ce soir. Et je vais toucher brièvement 5 points. D'abord, prendre les 2 questions du titre, du thème, et y donner une réponse très courte. Et parler ensuite du besoin d'Europe aujourd'hui. Et reprendre le thème « Quelle Europe ?» Essayer de clarifier quelle est la nature de la phase qui s'ouvre dans la vie de l'Union européenne. Et, 5e et dernier point, la question quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Le titre, le thème est formulé en 2 questions. Où va l'Europe? Quelle Europe voulons-nous? La réponse très courte. Je serais tenté d'inverser l'ordre de ces 2 questions. Mais si on prend la première, où va l'Europe, la réponse, elle ira où nous allons l'y mener. Le futur est toujours ouvert, il y a toujours plus d'un futur possible, il y a du futur impossible, donc il faut quand même cerner quel est le périmètre du possible. Mais dans ce périmètre, il y a toujours plusieurs possibilités et ça dépend de nous quelle de ces possibilités va devenir une réalité. Il faut, à mon avis, regarder à l'avenir, au futur, toujours par une attitude que j'appellerais prescriptive et non pas de prédiction et d'essayer de deviner le futur. Et la deuxième question, quelle Europe voulons-nous? La réponse rapide est toujours la même, celle que ceux d'entre nous qui ont, comme moi, même un tout petit souvenir de la guerre. Je suis né en 1940, donc à temps pour voir les villes détruites, pour voir passer les soldats allemands en Italie d'abord, les soldats américain ensuite, pour avoir vécu l'atmosphère d'incertitude des premières années 40, l'Europe qu'on a voulu à ce moment-là est la même qu'on veut aujourd'hui. Je dirais que par rapport à cette Europe, le besoin d'Europe est devenu encore plus fort aujourd'hui et j'essaierai de l'expliquer. Et en même temps, il est moins reconnu qu'il ne l'était autrefois. La réponse rapide à « Quelle Europe voulons-nous ?», je dirais la même Europe qui a inspiré les pères fondateurs. Donc, besoin d'Europe, mon 2e point. comme je le disais, ce besoin est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 60 ans. En même temps, il est moins reconnu. Et la raison de ce paradoxe est que, il y a 60 ans, ce besoin était senti par rapport au risque de la destruction, je dirais même à la réalité de la destruction. Aujourd'hui, il se présente par rapport au risque de la décadence et de la marginalisation, quelque chose de beaucoup plus doux et pas de nature à déclencher une production de réactions et d'anticorps tels que ceux qui sont générés par un choc ou par une tragédie. Mais pourquoi est-ce que ce besoin est plus fort qu'aujourd'hui? La nature, l'essentiel de ce besoin réside dans des exigences primaires, essentielles pour la vie de tout le monde, que l'État national tel que nous l'avons connu historiquement pour à peu près un siècle et demi, ou un peu plus d'un siècle, à partir de la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, est incapable de satisfaire. Le besoin primaire qui correspondait à cette définition était la paix. Et il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la paix, c'est le bien-être économique, la sécurité, le maintien d'une tradition commune aux pays de l'Europe, d'une conception de la vie publique, du sens que parmi les devoirs des pouvoirs publics, il y a un devoir de solidarité, et d'autres besoins tels que la protection de l'environnement, manière de faire face aux défis de la mondialisation. Je résume très rapidement, mais ces besoins n'étaient pas aussi clairs en 1950 qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout à fait évident à toutes les personnes qui regardent la réalité avec un œil libre et un esprit ouvert que ces besoins dépassent la possibilité de tout gouvernement d'un pays européen, même les plus grands, d'être satisfaits par eux-mêmes. Donc le besoin d'Europe est accru et en même temps il est plus difficile de le reconnaître et donc de le satisfaire. Troisième point, comment satisfaire ces besoins? Et donc, quelle Europe? Vous avez évoqué dans vos mots d'introduction les questions de voir si c'est une Europe trop libérale ou pas assez, trop solidaire ou pas assez. Et je pense que il ne faut pas penser que pour bâtir l'Union, un accord soit nécessaire sur ce point. Il n'est pas nécessaire pour faire vivre une construction comme nos États nationaux. Nous avons vu que dans votre pays, avec la même constitution, on a fait le plus grand programme de nationalisation qu'on ait connu depuis la révolution soviétique dans des pays à économie de marché. Sous la même constitution, on a inversé ce programme. Toute constitution doit être ouverte à des choix de programmes politiques très différents et à plusieurs égards même opposés. Et ce n'est pas la nature d'une constitution de dicter les politiques que les gouvernements, les parlements élus vont conduire dans la période de leur mandat. C'est plutôt de fournir un cadre pour que ces politiques respectent certains principes fondamentaux, et parmi ces principes, peut-être le principal est d'être prêt à céder le pouvoir à celui qui gagnera les prochaines élections, peut-être avec un programme très différent. On voit ça aux États-Unis en ce moment. On a vu ça quand il y a eu de tournants dans l'orientation des électeurs dans tous nos pays. Donc, si la réponse à la demande « Quelle Europe ?» n'est pas en termes d'un programme spécifique, quelle est cette réponse? À mon avis, l'essentiel de cette réponse est de nature institutionnelle. Quelle Europe? La réponse est une Europe unie. Et comme est unie la France, comme est unie l'Allemagne. Et qu'est-ce que ça veut dire être unie? J'utilise souvent l'analogie de ce qui est, à mon avis, l'archétype de toute union. L'archétype de toute union est la copropriété. Et c'est même la plus difficile des unions à conduire, parce que dans une copropriété coexistent des personnes qui ne se sont pas choisies, qui ne s'aiment pas normalement, qui ne vont pas d'accord, et il y en a toujours quelqu'un dont le but existentiel semble être de rendre la vie difficile au fonctionnement de la copropriété. Et en même temps, il y a les éléments essentiels de toute union. Il y a des biens communs, le toit, les escaliers, les fondements. Il y a, ou il devrait y avoir, une capacité de prendre des décisions concernant les biens communs, et donc de principe de décision, de majorité, et il y a un mécanisme pour assurer les ressources nécessaires pour mettre en place les décisions. En plus, il y a une frontière difficile entre les biens communs que je viens d'énumérer et les biens individuels, qui sont les appartements. On ne sait pas trop bien où l'appartement finit et les biens communs commencent, ou des fuites d'eau peuvent se produire et on ne sait pas si c'est à cause de la partie commune ou de la partie individuelle. Bien, toute union, et dans mon expérience, je dois dire que mes expériences de copropriétaire sont beaucoup plus difficiles que mes expériences de participant à l'union économique et monétaire. Mais aucune union ne fonctionne si elle ne répond pas à ces trois exigences: la reconnaissance de biens communs, la capacité de décider sur ces biens et les ressources pour mettre en place les décisions. Or, l'Union européenne est complète, est faite sur le premier élément. Si vous lisez les traités, vous trouvez la liste complète des biens communs qu'on trouve dans toute constitution de tout État. Elle manque sur le point 2 et sur le point 3. Elle manque parce que la capacité de décision, et c'est ça le paradoxe de toute union, n'existe que lorsque on est capable de décider dans le désaccord. Décider dans l'accord, ce n'est même pas une décision. Mais si il y a une règle selon laquelle, sans unanimité, on ne peut pas décider, l'ascenseur est cassé, et certains le veulent refaire en bois et d'autres le veulent refaire en métal, et n'étant pas d'accord, on ne le refait pas, il faut monter les escaliers à pied. L'Europe est dans cette condition, aujourd'hui, dans trop de domaines. Et même quand la décision est prise, les ressources pour la mettre en œuvre manquent. Donc la réponse à la demande « Quelle union ?», on l'a en regardant cet archétype et en disant que l'union qu'on veut doit être une union qui complète les lacunes de ce triptyque bien commun, capacité de décider, ressources. Il ne faut pas écrire dans les traités si l'ascenseur doit être en fer ou en bois. Il faut assurer qu'on puisse décider sur l'ascenseur et on puisse imposer les contributions pour le bâtir. Quatrième point, quel est le moment où nous sommes? Je crois que nous sommes dans un moment où s'ouvre une phase nouvelle. Et je pense qu'une phase nouvelle s'ouvre parce qu'une phase se termine. Et pour ce qui est du programme de l'Union, pour ce qui est de l'agent du changement dans la construction européenne et pour ce qui est du leadership dans l'Union européenne. Pour ce qui est du programme, depuis le début ou la moitié des années 80 et jusqu'à cette crise, le programme de l'Europe a été de bâtir un grand marché. C'est un programme qui a pu être réalisé parce que sur ce programme, il y a eu un accord très vaste, y compris l'accord du Royaume-Uni et d'une personnalité comme celle de Mme Thatcher, qui n'était pas un champion d'enthousiasme européen. Mais elle croyait au marché. Mais ce programme a consisté à penser, à croire et à mettre en œuvre une conception selon laquelle la construction d'un grand marché était la tâche, et je dirais la seule tâche, ou le programme, et je dirais le seul programme de construction de l'Union. Et on a fait implicitement un accord selon lequel l'Europe, c'est un marché, tout ce qui est public reste national. Ce n'est pas écrit dans les traités. Les traités ont une vision beaucoup plus équilibrée de la relation entre la partie marché privé de la réalité économique européenne et les tâches publiques des pouvoirs publics. Et donc on a nationalisé, renationalisé, maintenu un caractère quasiment exclusivement national à toutes les interventions de pouvoirs publics et créé l'Union à travers, ou essayer de créer l'Union à travers la création d'un grand marché. Le paradoxe est que, comme la théorie économique nous apprend, il n'y a pas de marché qui fonctionne sans l'autre côté de la médaille, qui est la partie publique, l'intervention des pouvoirs publics pour que le marché fonctionne. S'il y a un seul marché et 12, 15, 19, 27 pouvoirs publics, le marché même finit par ne pas fonctionner et cette crise en est la preuve. Donc, je crois qu'une phase se termine dans laquelle on a vécu dans l'illusion que la construction d'un marché, qui est une chose extrêmement positive, extrêmement souhaitable, soit suffisante et à la limite possible sans le complément d'une capacité d'action d'un pouvoir public européen. Le deuxième aspect de la phase qui se termine est quel était l'agent du changement. Et depuis le même moment où le marché s'est imposé comme le seul but de la construction européenne, l'Union européenne a procédé par amendements successifs des traités. 84, 92, 96, 2001 et jusqu'à la Convention et au traité de Lisbonne. Pendant les 25 ans qui ont précédé cette longue phase, la construction européenne avait procédé sans amender d'une manière importante les traités. Le programme consistait à mettre en œuvre les traités tels qu'ils existaient, le traité de Rome tel qu'il existait. On a fait des amendements, mais pas des amendements en profondeur. Je crois que la phase par laquelle on procède par amendement de traité se termine avec le traité de Lisbonne et qu'aujourd'hui s'ouvre une phase dans laquelle à nouveau faire progresser l'Europe consiste à mettre en œuvre le potentiel qui existe dans les traités existants. Et le troisième aspect de la phase qui se termine est la fin du leadership britannique et de Tony Blair sur l'Union. Le leadership européen a été exercé par la France pendant des décennies. Et à mon sens, ce leadership a été perdu quand, par la France, je parle très franchement, quand la France a cessé d'être un facteur d'avancement de la construction européenne parce qu'il y avait un pays et un leader politique qui était encore plus doué pour ne pas faire avancer l'Europe, c'était le Royaume-Uni et Tony Blair. Et le tournant vient dans les années 90, déjà à Maastricht, quand on fait l'union monétaire, mais c'est la France qui bloque l'union politique. Et cette phase de leadership britannique, qui est un leadership intellectuel, qui est celui qui a injecté dans les esprits l'idée qu'il y a un déficit démocratique, vous y avez fait allusion, je ne crois pas qu'il y a un déficit démocratique aussi radical qu'on l'ait dit, l'idée qu'il n'y a pas de démos européen, une autre légende, comme s'il y avait un démos français ou un démos italien. Vous faites un tour en Italie, vous verrez qu'il y a 12, 15, 20 Italies. L'identité est quelque chose d'extrêmement fragmenté et diversifié. Et puis, il ne faut pas être un démos pour avoir besoin de l'unité. Dans la copropriété, on ne s'aime pas, on n'est pas un démos, mais on a besoin quand même d'un gouvernement commun. Et donc, c'était un leadership intellectuel, pas seulement un leadership politique, mais à mon avis, l'approbation du traité de Lisbonne, l'échec de la candidature de Blair à la tête du Conseil européen ont terminé cette phase de leadership et ont peut-être ouvert une phase de leadership différente. Peut-être le leadership aujourd'hui est à Berlin. Donc, il y a une phase nouvelle qui s'ouvre et donc il faut comprendre les possibilités, les enjeux et la nature. Cinquième et dernier point, quoi faire? Si on croit que le besoin d'Europe n'est pas moins fort qu'il ne l'était, mais il est seulement moins perçu, si on partage la réponse que j'ai essayé de donner à la question « Quelle Europe ?», si on est d'accord sur le diagnostic du moment dans lequel nous sommes, fin d'une phase et début d'une nouvelle phase, il faut œuvrer à l'intérieur de ces possibilités et de ces contraintes. On en parlera peut-être dans le débat. Je me limite à dire qu'il n'y a pas seulement un programme d'action, il y a un combat d'idées qui est indispensable. Je crois qu'il y a les années de décadence qui sont derrière nous et qui ont peut-être découragé Jean-Louis Bourlange de continuer sa mission au Parlement européen, il nous dira peut-être quelque chose là-dessus. Et c'est parce qu'il y a une stratification de fausses idées, de préjugés, de mythes qu'il faut détruire un par un avec la force des arguments. Et donc il y a, à mon avis, un combat d'idées fondamental. Par exemple, en France, l'idée que l'unanimité et le pouvoir de veto sont deux atouts dont la France ne peut pas se priver est une fausse idée, mais qui est tellement enracinée dans les esprits, comme l'était l'idée qu'il ne fallait pas renoncer à la monnaie nationale. Et cette idée a été à un certain moment reconnue comme une illusion et il y a eu un changement que j'ai vécu de très près dans lequel l'opinion a changé dans ce pays. Ce combat d'idées ne peut pas être fait seulement par quelques individus, doit être fait par les personnes qui sont dans cette salle, chacune en suivant les événements, en réfléchissant sur la réalité, en engageant un débat autour d'elle-même. Et donc il y a à la question quoi faire, il y a une réponse non seulement pour les gouvernements et pour les militants, mais pour toutes les personnes qui s'intéressent à la bonne santé de cette copropriété qui est l'Europe. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Padoa-Schioppa, pour cette clarté d'analyse qui nous permet d'envisager l'avenir. Alors, vous nous avez rappelé en démarrant que l'Europe ira là où nous voulons la mener, ce qui est évidemment encourageant pour nous, avec ce constat qu'il y a un besoin d'Europe encore plus grand, encore plus fort, peut-être moins reconnu qu'autrefois, et avec des besoins qui dépassent évidemment les possibilités d'un seul pays, et que face à ces besoins d'Europe qui se sont accrus, eh bien, il est important de viser cette unité européenne, qui est l'essentiel de la réponse, qui est institutionnelle, vous l'avez dit, avec cette reconnaissance impérative des trois éléments, avec cette belle image de la copropriété qui, je crois, a été éclairante pour nous, la reconnaissance des biens communs, la capacité de décider et les ressources pour mettre en œuvre ces décisions. Alors, comment y arriver? Eh bien, il semble, vous nous dites qu'une phase nouvelle s'ouvre aujourd'hui et donc elle peut permettre de nouvelles avancées avec, évidemment, le problème de la régulation du marché et la capacité d'action d'un pouvoir public européen. Et puis que finalement, c'est pas simplement un programme d'action qu'il s'agit d'élaborer, mais c'est bien un combat d'idées, avec un certain nombre de fausses idées qu'il s'agit de détruire, d'éclairer en tout cas, et c'est bien ce pourquoi nous sommes là ce soir. Alors peut-être un autre éclairage à partir d'une même réalité, celui de Jean-Louis Bourlange, je vous laisse la parole.
Oui. Merci mon père. Alors j'aurais beaucoup de difficultés à dire quelque chose d'opposé, de contradictoire à ce que vient de dire Tommaso, parce que je suis tout à fait d'accord avec vraiment la totalité de ce qu'il a dit. Selon la formule classique, tout a été dit, mais grâce au ciel, pas par tout le monde. Donc je peux recommencer. Je vais simplement essayer de varier l'approche. Vous allez avoir le dessert avant le hors d'œuvre, etc. Je vais essayer de varier l'approche. Tommaso a abordé le problème européen de façon à la fois synchronique, pour l'essentiel, avec cette image centrale de la copropriété, comment faire vivre de façon civilisée des gens qui sont là par le hasard et qui ne se sont pas choisis. Et il a défini les conditions et j'y souscris pleinement. Il a également abordé la question d'une façon diachronique en évoquant les problèmes de phase et de cycle où nous en sommes. Je voudrais personnellement insister sur ce second point. À la question « Où va l'Europe ?», je ne répondrai pas. Je crois que c'est à vous, mesdames et messieurs, qu'il appartiendra de répondre. Mais j'essaierai, pour faciliter votre réponse, de répondre à la question d'où vient-elle et où en est-elle. Je ne paraphraserai pas Pierre Dac qui dit à l'éternelle question « Qui suis-je d'où viens-je et où vais-je » Je réponds « Je suis moi, je viens de chez moi, j'y retourne ». Mais je ne suis pas Pierre Dac et je vais essayer de répondre plus sérieusement. Alors je voudrais, pour éclairer ce qui me semble être l'histoire, l'articulation de l'histoire de la construction européenne, quand je parle de construction européenne, et je pense que Tommaso sera d'accord avec moi sur ce point, je crois qu'il faut partir du 9 mai 50, c'est-à-dire d'un moment précis où un choix institutionnel a été fait, qui est de dire, il ne s'agit pas simplement que les Européens vivent en paix, échangent les femmes et les enfants, des produits, des biens, il s'agit qu'ils mettent ensemble, qu'ils forment ensemble ce qu'on appellerait une politique, une organisation politique fondée sur des transferts de compétences et l'exercice par des institutions communes d'un certain nombre de compétences. Alors c'est pour ça le débat éternel entre les partisans du oui, du non, je suis européen, moi aussi je suis européen, c'est un débat qui n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est de savoir comment on se situe par rapport à cette entreprise historique né de l'appel de Robert Schuman le 9 mai 50 et qui, avec des fortunes diverses, se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est bien ce moment-là, ces 60 ans qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et je crois qu'il faut distinguer trois périodes très différentes. La première, la plus longue, va de la déclaration Schuman du 9 mai 50 jusqu'à la fin de la guerre froide, le démantèlement du rideau de fer et la fin du mur de Berlin, la réconciliation, la réunification des Europes et la dissolution de l'Union soviétique. C'est la première phase. Ensuite, nous avons une seconde phase qui dure une dizaine d'années, qui est le moment des illusions, des plus loin illusions, et qui va s'achever au début du millénaire actuel par une troisième phase qui sera une phase marquée par les crises, qui sera évidemment inaugurée par le 11 septembre, prolongée par le conflit irakien, le conflit afghan, la montée en puissance d'une Chine orgueilleuse et arrogante, et pour finir, une crise économique qui remue au plus profond de nous-mêmes à la fois nos intérêts, nos valeurs et nos positionnements respectifs dans le monde, puisque selon le mot tout à fait juste de Warren Buffett, eh bien, Buffett, ce qui caractérise la crise, c'est que c'est comme la mer, quand elle se retire, on s'aperçoit, on voit quels sont les nageurs qui ont des maillots de bain et ceux qui n'en ont pas. Dimension géopolitique de l'entreprise. Alors, voilà les trois phases. Alors, la première phase, comment se caractérise-t-elle? Elle se caractérise, à mon avis, par une triple dialectique. D'abord, une dialectique du même et de l'autre. Je crois qu'il faut comprendre que cette dialectique est très complexe et que le passage du même à l'autre est sans doute l'équilibre entre le même et l'autre est sans doute quelque chose que nous avons le plus de mal à réaliser. L'homme du même, c'est Robert Schuman. Robert Schuman, c'est un Lorrain qui a vécu en sujet de l'empereur Guillaume II, avant d'être français, qui parle allemand, qui est catholique romain, et qui voit de l'autre côté Konrad Adenauer, qui est allemand, qui parle allemand, qui est catholique romain, qui a les yeux comme lui tournés vers Rome, dont les pays respectifs ont été ravagés par la guerre, et qui disent « nous sommes les détenteurs d'une même civilisation » et nous avons été artificiellement séparés par la folie meurtrière des États. Donc, il s'agit de retrouver par-delà les frontières artificielles des États une unité culturelle, morale, sociale, fondamentale, qui est celle de cette latinité germano-rhénane qui nous unit tous. Et on voit effectivement, quand on regarde les pièces d'identité des pères fondateurs, on voit bien cette convergence. Alcide de Gasperi, c'est un homme de l'irrédentisme, pénétré de culture autrichienne. Le Belge, Paul-Henri Spaak, vit dans un pays qui est marqué par la confrontation des deux cultures germaniques et latines. Et le luxembourgeois, qu'est-ce que c'est qu'un luxembourgeois? C'est quelqu'un qui vit en stéréophonie entre la France et l'Allemagne. Donc, on est bien on a bien des gens qui vivent au fond d'eux-mêmes l'unité perdue de la civilisation européenne, unité perdue par le dérèglement des États nationaux qui pourtant font partie de l'identité européenne. Et puis, il y a l'autre. Il y a l'idée que développe souvent Danny Cohn-Bendit encore aujourd'hui, que l'Europe, ça consiste à surmonter l'altérité, à découvrir l'autre, à découvrir quelqu'un qui n'est pas comme vous, mais qui, parce qu'il est un homme, parce qu'il est une personne, mérite d'être considéré en tant que tel. Et effectivement, la violence de l'affrontement de la Seconde Guerre mondiale, notamment du conflit franco-allemand, fait que, à part pour Schuman et Adenauer, le français et l'allemand en 1950 ne vivent pas tout à fait dans les mêmes planètes. Et l'homme de cette altérité, c'est Jean Monnet. Jean Monnet a passé sa vie à mettre d'accord des gens qui ne l'étaient pas, selon la formule de la copropriété qu'a évoqué Tommaso. Et là, l'Europe, ça consiste à dire, voilà, on a tous des intérêts communs. Bon, moi Monet, j'ai roulé ma bosse dans les communes, dans les coopérations interalliées pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, je me suis occupé de SDN. Je suis génial, moi Monet, ce qui est tout à consonne de sa génialité. Je suis génial pour inventer une méthode qui permet à des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se comprennent pas, qui ne s'aiment pas, de dépouiller leur hostilité, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à hiérarchiser leurs intérêts et d'apprendre à voir leurs intérêts légitimes. Et la méthode Monet, c'est-à-dire à la fois une autorité supérieure comme la Commission qui propose, des méthodes comme la majorité qualifiée qui facilite la prise de décision et facilite le consensus, mais évite l'affrontement de la majorité simple, tout un ensemble, l'utilisation intelligente du calendrier, la dissociation entre le moment où l'on prend la décision, moment où ça ne fait pas mal, et le moment où on l'applique, où ça fait mal, mais elle a déjà été prise. Tout ça, toutes ces utilisations constitutives de la méthode Monet consistent à mettre ensemble des gens qui ne sont pas d'accord et qui ne s'aiment pas. Et là, vous verrez que cette tension, alors elle est très bien résolue en 1950, parce qu'elle s'adresse à un public assez déterminé, mais elle est au cœur de la difficulté. Par exemple, quand Cohn-Bendit dit il y a eu le miracle du Rhin, la réconciliation franco-allemande, il y a eu le miracle de la Vistule, la réconciliation avec la Pologne, il doit y avoir le miracle du Bosphore, la réconciliation avec la Turquie, on peut aller beaucoup plus loin, et on peut se dire, est-ce que la méthode Monet, ce que pensait fondamentalement Monet, n'a pas vocation à associer tout le monde, et est-ce que Jean Monnet n'est pas finalement l'entremetteur du genre humain? C'est cette question qui est à l'origine. La deuxième dialectique originelle, c'est la dialectique de l'idéologie et du territoire. Ce qui caractérise l'Europe initiale, c'est la convergence, la coïncidence plutôt, entre un territoire qui est approximativement le territoire carolingien et un certain nombre de choix idéologiques. Choix idéologiques qui sont les choix anti-bolcheviques, donc bornés à l'est comme l'Empire de Charlemagne qui traverse le milieu de l'Allemagne, bornés au sud par le refus des dictatures du sud, Portugal, Espagne et à un moment Grèce, et d'autre part, refus idéologie de la supranationalité qui dresse une frontière par rapport à l'Angleterre, aux îles britanniques et à un certain nombre de peuples qui répugnent à la méthode d'intégration. Donc on a, pendant cette période que je qualifierais de privilégiée, l'Union européenne, appelons-la comme ça, bien que le terme apparaisse officiellement à Maastricht, l'Union européenne n'a pas à se poser en termes tragiques la question de ses frontières, car ses idées et ses frontières coïncident. Et même quand l'Angleterre finira par rentrer, en fait, elle sera dans une situation de relative marginalité, très visible dans les années 80, au moment où c'est vraiment l'entente entre les Français, les Allemands, les Italiens, qui jouent un rôle essentiel dans la relance de l'acte unique européen, ces gens-là qui mènent le jeu, Margaret Thatcher étant amenée, en fait, à cautionner, à obtenir un certain nombre d'avantages et à cautionner. Donc c'est la deuxième dialectique. La troisième dialectique, c'est la dialectique de l'Europe et des États-Unis. Les Français adorent l'idée que l'Europe est faite pour se construire contre les États-Unis. On peut être pour ou contre cette idée, mais historiquement, elle est fausse. L'Europe ne se serait jamais réunie, la communauté européenne ne se serait jamais formée, si elle n'avait pas fait partie de la solidarité atlantique. Et si un certain nombre de dirigeants américains n'avaient, de façon constante, je parle de cette époque-là, n'avaient soutenu les initiatives européennes. Il y a la menace soviétique. Cette menace a un caractère mondial. On ne peut y répondre que par une réponse de caractère mondial, donc l'Alliance Atlantique. Les armes de destruction massive ne sont plus en Europe. Elles sont en Europe occidentale. Elles sont en Russie et aux États-Unis. Et il faut donc y répondre dans un cadre atlantique. De plus, la méfiance entre les Européens est au début des années 50 encore très forte. Les Allemands se méfient des Français. Les Français se méfient des Allemands. les Néerlandais se méfient des Français et des Allemands. Et l'Amérique, de ce point de vue-là, apporte à chacun la tranquillité, excusez-moi, je croyais avoir laissé mon chat à la maison, mais... les Américains apportent quelque chose de très fondamental, qui est la garantie à chacun qu'il sera protégé, à tous, qu'il sera protégé des autres. C'est pas seulement vis-à-vis de l'URSS qu'on apporte cette garantie, c'est à l'intérieur de l'Union de l'Europe de l'Ouest. Résultat, et je termine sur cette première partie, le système qui émerge dans les années de 50 à pratiquement la chute du mur de Berlin, c'est un système qui est relativement homogène territorialement, même s'il s'élargit progressivement au fur et à mesure que les dictatures s'effondrent, etc., relativement homogène. C'est un système institutionnel assez net, même quand l'Angleterre entre, elle ne fait pas céder, elle est obligée d'accepter l'acquis institutionnel, et même à travers l'acte unique européen, elle est conduite en échange du marché, puisque Tommaso a raison de le rappeler, Margaret Thatcher était très attachée au marché, elle est amenée à cautionner le renforcement de caractère fédéral des institutions européennes, et ça c'est la génialité de ces deux personnages qui passeront à la postérité de façon assez mélangée, que sont Craxi et Andreotti, que d'avoir inventé au Conseil européen de Milan le fait d'obliger Madame Thatcher, à accepter un vote à la majorité qualifiée du Conseil européen, c'est-à-dire le crime fédéral à l'état pur. Pourquoi ? Pour lui permettre de voter contre, tout en ayant le bénéfice de l'acte unique européen, c'est-à-dire du grand marché. Donc là, c'est un projet véritablement diabolique qui a été mené par nos amis italiens avec un succès absolument considérable. On ne dira jamais à quel point l'acte unique européen est une invention ni française ni allemande, mais une invention italienne. En tout cas, on a des institutions solides et on a, troisièmement, des compétences prototypiques, c'est-à-dire des compétences limitées, dichotomie entre le politique et l'économique, c'est les compétences de l'Union, de la communauté européenne sont économiques, et les compétences politiques sont en fait exercées dans un cadre atlantique, et quand le général de Gaulle s'attache à essayer de le démanteler, il n'y parvient pas. Et deuxièmement, et ça c'est très clair dans ce qu'a dit également Tommaso, le contenu de ce qu'on appelle l'Europe économique est assez profondément libéral au sens que Benjamin Constant donne à ce terme, c'est-à-dire la politique conçue comme un système de protection des citoyens contre les abus de l'État. On est bien dans le circuler, dans les grandes lois de circulation, dans la protection des acteurs économiques contre les monopoles, qu'ils soient publics ou privés. Donc c'est un système de protection et de régulation de l'initiative privée, beaucoup plus qu'un système de promotion des politiques publiques. Donc voilà une ambition qui est très clairement définie, et une Europe très équilibrée et très modeste. J'insiste sur le fait, ça paraît extraordinaire parce que on est au lendemain de la guerre et que ça scelle la paix et la réconciliation dans les cœurs des belligérants des 50 années précédentes. Donc c'est un très grand succès politique, mais en même temps l'entreprise elle-même est relativement modeste. Il ne s'agit pas de faire des choses ensemble, il s'agit de gérer les frictions qu'on a les uns et les autres par le droit, par la coopération et pas par la violence, la guerre, l'intimidation. En revanche, sur le plan politique même, une très grande prudence. Que se passe-t-il après ? Et ça, tout ça est évidemment conditionné par la menace soviétique qui explique la solidarité atlantique. Alors, deuxième grand moment, le démantèlement, la chute du rideau de fer, le démantèlement du mur de Berlin. Et là, je crois qu'il va se passer deux choses que nous n'avons pas perçu tout de suite. Nous n'avons pas perçu tout de suite parce que nous avions en chantier un certain nombre de choses. Et d'abord l'euro. L'euro, c'est la dernière création de l'Europe précédente. Mais c'est comme la lumière d'une étoile morte.
Elle a éclairé les années 90 et le début des années 2000, alors qu'en fait, c'était un produit de la phase finale de la période précédente, entre l'acte unique européen et le traité de Maastricht. Mais, et deuxièmement, l'élargissement, qui était effectivement la conséquence logique, géographique, de cet effondrement du système soviétique. À l'abri de ces deux grandes réformes, plus la réalisation du marché intérieur, qui lui aussi concrétise des engagements qui ont été pris dans les années 80, eh bien, à travers cela, on ne voit pas, en fait, très bien, mais ça apparaît progressivement, que l'Europe devient à la fois inutile et introuvable. Elle devient inutile pourquoi ? Parce que ce qui domine le début des années 90, ce sont trois convictions. Premièrement, la conviction de la bonté, la bénévolence de l'échange économique mondialisé. C'est ce que Alain Minc appelle, grand théoricien du présent, tous les présents successifs, c'est ce qu'Alain Minc appelle la mondialisation heureuse. Deuxièmement, je n'insiste pas, vous voyez, bon, deuxièmement, c'est l'Europe de la certitude de la contagion démocratique. C'est Fukuyama qui dit, nous avons gagné, la démocratie libérale a gagné, elle va s'étendre plus ou moins vite, plus ou moins complètement, mais progressivement, elle va devenir la loi du monde. Et troisièmement, la sécurité, il n'y a plus de guerre froide, il n'y a plus de confrontation, il y a ce que Hubert Védrine appelle l'hyperpuissance américaine. Donc, ne nous en faisons pas, tout va très bien, on n'a besoin de rien. L'Amérique nous protège, on n'a pas besoin d'Europe militaire, la Yougoslavie commence déjà à marquer les limites de cette pensée, mais on essaie de la tenir à distance, de l'oublier, de ne pas s'en occuper, de donner du temps au temps. La démocratie, ça va tout seul, la mondialisation est heureuse, et là on voit que l'idéologie qui se développe, c'est celle de Gordon Brown, en disant, entre la nation, foyer normal d'identité et de mobilisation des énergies en l'absence d'une guerre idéologique qui a complètement disparu, entre la nation et le monde, il n'y a rien de pertinent. Et peu à peu, derrière les initiatives et le développement des politiques issues de l'époque précédente que j'ai évoquées, cette conviction de l'Europe inutile chemine. Et nous arrivons donc à ce moment-là, et nous sommes encore en train de vivre institutionnellement cette période, comme l'a relevé d'ailleurs tout à fait justement Tommaso tout à l'heure, nous n'avons pas les moyens de faire face à ce nouveau besoin d'Europe. À ce moment-là, nous sommes dans une situation où l'Europe est introuvable. Les dirigeants, d'abord. Grande relève des dirigeants. Tous les dirigeants qui croyaient à l'Europe sont balayés au profit d'euros tièdes. Pas des anti-européens frénétiques, mais des gens qui gèrent le passé et n'avancent plus. C'est Berlusconi qui remplace les démocrates chrétiens italiens. C'est Schröder qui remplace Kohl. C'est Chirac qui remplace Mitterrand. Et un peu Balladur également, et je dirais aussi un peu Delors, et c'est Aznar qui remplace Felipe González. Et tout cela aboutit, comme vous l'avez dit, Tommaso, au leadership d'une Europe tiède, c'est-à-dire du plus brillant de ces politiciens euro-tièdes, qui apparaît comme le plus européen des politiciens dans un pays qui est le plus anti-européen des pays, c'est-à-dire Tony Blair. Donc on a une situation qui est ces leaders-là. Et ces leaders vont faire évidemment tout ce qu'il faut pour ne pas faire l'Europe. D'où ce débat surréaliste sur les institutions, où on n'arrête pas de dire qu'il faut renforcer les institutions européennes, alors que les arrière-pensées sont évidemment qu'il faut protéger les États nationaux. Donc on fait semblant, moi j'ai démissionné, j'avais publié une interview dans Le Monde en disant « l'Europe fait semblant ». C'est parce que j'en avais assez, effectivement, d'être dans ce numéro où les gens disaient qu'ils faisaient l'Europe alors qu'ils ne le faisaient pas. Donc on a, d'une part, ces Européens, ces euro-tièdes. Deuxièmement, on a, et c'est très important, ce que j'appellerais un universalisme sans frontières. Là se dissocie, à travers la fin de la guerre froide, cette alliance d'une idéologie européenne et d'un territoire déterminé. L'Europe perd ses repères. Le triomphe de Fukuyama fait que, en réalité, on ne sait plus où ça s'arrête. Car ce qui bornait l'Europe, la communauté européenne dans l'époque antérieure, ce n'était pas l'Europe qui inventait ces bornes, c'était les autres. C'était Franco, c'était Staline qui marquaient les limites du projet, et c'était les Britanniques quand ils ne voulaient pas rentrer. Donc tout ça s'effondre. Et là, on est saisi de vertige. Où ça s'arrête? Où ça commence? Où est le même? Où est l'autre? Et là, se fait jour une interrogation existentielle qui va se cristalliser sur la question turque. Troisièmement, et c'est lié, le modèle institutionnel est en crise profonde, et c'est, selon moi, mais je ne suis pas sûr que Tommaso soit entièrement d'accord avec mon approche sur ce plan-là, selon moi, il y a un lien entre cet universalisme dérivant qui va bien au-delà de la réconciliation des deux Europes, Europe centrale, Europe orientale et Europe de l'Ouest. Il y a un lien entre cet universalisme, cette dérive universalisante, et l'idée qu'au bout du compte, être européen, c'est coopérer entre soi. Et là, on voit, alors je ne vais pas vous faire le détail, mais par toutes sortes de méthodes, de discussions, d'arbitrages plus ou moins clandestins, d'usages, etc., on voit se détricoter le système communautaire et s'organiser une méthode dite de coopération ouverte, dont Lisbonne sera à la fois le symbole, en même temps que le symbole de l'échec, Lisbonne, pas le traité, le processus de Lisbonne, l'agenda de Lisbonne, et là on voit que l'idée qui prévaut, c'est on peut faire une Europe extrêmement large, à la condition de faire une Europe extrêmement lâche. Et on peut faire une Europe extrêmement lâche à la condition de faire une Europe extrêmement large. Attention, avant l'élargissement et l'approfondissement, contrairement à ce qu'on pense en France, avaient marché de pair. Chaque traité d'élargissement s'était traduit par une nouvelle compétence et par un renforcement du dispositif institutionnel. À partir du milieu des années 90, on rompt ces deux choses-là, et on fait naître une sorte de concept très britannique dans lequel on a une Europe sans frontières, sans ressorts et sans ressources. La copropriété, pour filer la métaphore de Tommaso, la copropriété s'étend à un nombre croissant d'immeubles, mais le règlement intérieur ne suit pas et les ressources financières pour faire face aux dépenses communes ne suivent pas non plus. Donc on est dans ce système-là. Et là, maintenant, donc c'est ça la crise profonde, l'Europe inutile. Et que va-t-il se passer maintenant? Et je termine par cette troisième série d'observations. Ce qu'on observe, c'était déjà en germe dans les crises yougoslaves, mais ça éclate avec le 11 septembre, avec la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan et la guerre d'Irak, puis avec la crise économique, c'est la dissipation de ces trois illusions. On découvre premièrement que la démocratie est beaucoup moins contagieuse que la grippe aviaire. Et que donc, il est essentiel de comprendre que c'est une fleur précieuse dont les Occidentaux en général et les Européens sous la forme la plus achevée, notamment je pense à la question du temporel et du spirituel, ont réalisé que la démocratie est quelque chose qui appartient, je ne dis pas en propre, mais qui est quand même le fruit d'une civilisation particulière et qui ne s'impose pas comme quelque chose de supérieur ni aux islamistes ni aux Chinois. Que là, on est dans quelque chose de limité et que donc, il faut penser la défense de la démocratie en termes moins universalisants et en termes plus particuliers. La deuxième chose, c'est la fin de l'hyperpuissance américaine. Là, on a compris que les Américains, c'était la première puissance du monde, que les Américains avaient la suprématie, mais que ça ne leur donnait pas les moyens de gérer l'équilibre du monde, d'assurer et de gérer le nouvel ordre mondial. Et les revers américains, les revers politiques américains au Moyen-Orient, les difficultés croissantes qu'ils rencontrent en Extrême-Orient, dans la gestion du problème chinois, du problème japonais, etc., montrent que l'Amérique, qui reste la plus grande et pour longtemps la première puissance militaire du monde, est en même temps une puissance politique qui a à nouveau besoin de quelqu'un, de quelque chose. Donc l'Europe, même si Obama tarde un peu à le reconnaître, et nous l'aidons à tarder à le reconnaître en ne le reconnaissant pas nous-mêmes, l'Europe est assurément plus nécessaire qu'elle n'était. Et troisièmement, à travers la crise économique, nous découvrons que, après la mondialisation heureuse, nous découvrons la mondialisation asymétrique, après Alain Minc, Warren Buffett, après la mondialisation heureuse, les maillots de bain inégalement distribués entre les nageurs. Et notamment, ceux qui ont le moins de maillots de bain, c'est clairement nous. Bon. Donc, on est dans une situation extrêmement difficile. Donc, on a ce retour en force du besoin d'Europe, du besoin d'une Europe qui affirme ses possibilités, qui affirme ses valeurs démocratiques, d'une Europe qui concourt à l'équilibre mondial par toutes sortes de moyens dont les contributions militaires ne sont pas exclues, une Europe qui, en même temps, a besoin de se muscler économiquement, de faire face, relever un certain nombre de défis, le défi démographique, le défi de l'innovation technologique, le défi d'une gestion performante de la zone euro, donc tout un ensemble de choses qui demandent un supplément d'Europe, qui demandent qu'on aille au-delà du pacte de stabilité et qu'on aille au-delà de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et là, et je terminerai par là, car je crois que je fais la même conclusion de ce point de vue-là, peut-être un peu plus dramatique, mais c'est, je crois, la conclusion d'une même inspiration que celle de Tommaso, on a un effet en ciseaux, puisque à côté de ce besoin accru d'une Europe dans un monde redevenu dangereux, même si la menace n'a pas le caractère immédiat et perceptible qu'avait la menace soviétique avant 89, elle est plus diffuse, plus sournoise, mais peut-être plus dangereuse encore, face à cette menace qui exige de nous un surplus d'union, d'Europe, d'intégration, et je suis d'accord avec Tommaso, ça passe par la mise en commun institutionnelle, donc par des mécanismes fédéraux. Nous voyons un énorme recul des opinions pour une part d'entre elles et des dirigeants de l'autre. L'égocentrisme des dirigeants va croissant. L'égocentrisme, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un pouvoir en dehors du mien. Je ne désigne personne. Et donc, on a cette espèce d'explosion égocentrique qui a été analysée à peu près partout, qui est liée à des tas de phénomènes médiatiques, etc. Et un refus très profond de la mise en commun. Et là, et je termine par là où j'ai commencé sur le même et l'autre, là, et c'est là que le problème se pose, et c'est peut-être là que j'aimerais savoir si Tommaso est d'accord avec moi, moi je ressens une tension entre le même et l'autre. C'est-à-dire que je crois qu'il y a en réalité deux projets européens qui coexistent, qui se superposent partiellement, mais qui, d'une certaine façon, se parasitent l'un l'autre. Si on insiste sur l'Europe, ça rassemble les mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rassemble des gens qui ont fondé un rapport à la politique commun. Ce rapport à la politique commun, il date du 5e siècle. Il est fondamentalement lié au modèle christo-laïque, qui est le même. Le Goff le dit, la querelle entre les chrétiens et les laïcs, c'est absurde. La laïcité est un produit du christianisme, c'est un produit de l'augustinisme, du thomisme. L'affirmation de l'autonomie du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel poussé à son terme, ça c'est quelque chose dont nous sommes porteurs. Ça dessine un territoire relativement précis. Et on dit, ça c'est le fond, la matrice de l'Europe. Bon, on a cela. Deuxièmement, on accepte un modèle d'intégration et on accepte des politiques volontaires, pas simplement des politiques libérales, des politiques volontaires dans le domaine démographique, militaire, innovation internationale, etc. Et troisièmement, dernière chose, on accepte un système relativement fermé. C'est-à-dire qu'on dit, il y a le même et puis il y a les autres. Ou alors, on reste calé sur un modèle universalisant, on dit l'Union européenne c'est une machine à rassembler les gens qui ne sont pas d'accord, donc moins on est d'accord, plus on a besoin d'Europe. L'Europe, c'est des ponts, on s'associe, on discute, on applique la méthode Monnet, et là, on dérive vers une forme d'organisation qui est une organisation très intéressante. C'est le modèle que propose Michel Rocard, par exemple, qui est un modèle de diffusion douce des valeurs démocratiques et de l'aisance occidentale à travers une sorte de, on pourrait dire, de noyau dur, semi-mou, de l'Organisation des Nations Unies. Mais là, on s'interdit de constituer un acteur politique. On constitue l'Union européenne comme une organisation internationale exemplaire dans laquelle les acteurs se respectent, échangent, coopèrent, mais ne produisent pas une véritable politique commune. Et je crois qu'il y a là une tension très profonde entre ces deux modèles. Moi, en tant que vieil Européen, fédéralisme, et ne le dites pas, les gens n'aiment pas le mot, je suis évidemment partisan de la première. Je constate que les Britanniques sont les champions de la seconde, et je m'étonne toujours de voir que certains puissent penser concilier réellement l'une et l'autre, c'est-à-dire une Europe diluée dans ses frontières et une Europe ramassée sur ses institutions. Voilà quelle est mon inquiétude aujourd'hui. Ce que je crains par-dessus tout, c'est que ce soit cette Europe de la coopération molle, l'Europe qui combine la dilution des ambitions et l'absence de véritable coopération entre les États qui prévaut. La crise grecque, de ce point de vue-là, me paraît tragique, puisqu'elle montre au cœur de l'Union européenne un véritable défaut de solidarité. Les dirigeants européens qui gèrent la crise grecque politiquement, je ne parle pas des solutions économiques, ça peut toujours se régler, etc., mais qui gèrent politiquement la situation grecque avec des noms d'oiseaux, avec un développement de l'agressivité générale au sein de l'Union européenne, ne méritent pas de l'histoire, ne méritent pas de l'avenir. Nous avons besoin exactement de l'inverse. Nous avons besoin d'une Europe qui se rassemble sur ses valeurs, d'une Europe qui fortifie ses institutions, et d'une Europe qui affirme des politiques communes. Le besoin d'Europe est de retour. Les Européens ne sont pas, à ce jour, de retour.
Voilà, vous n'êtes plus au Parlement européen, mais on sent que la flamme de l'Européen et du
tribunal...
Ah ben oui, mais ici on est beaucoup plus lâche.
C'était Jean-Thomas Norman qui disait « Le Parlement européen est un endroit merveilleux où l'on entend le président de séance dire « Monsieur Giscard d'Estaing pour 2 minutes
». Ah oui, ça c'est merveilleux, ça. Oui, c'est... Alors, je crois qu'il n'y a vraiment pas besoin de revenir sur vos propos tant ils sont éclairants. Je crois que c'est vrai que c'était bien de pouvoir refaire une relecture un peu de tout ce parcours européen. Et cette dialectique du même et de l'autre, je crois, elle est bien éclairante pour nous. Pour pouvoir aborder les questions d'aujourd'hui. Alors, ben, les questions se posent, finalement, quel projet européen choisissons-nous ? Y a-t-il, finalement, 2 projets européens, celle d'une coopération molle ou celle d'un supplément d'Europe ? Alors, avant de passer immédiatement la parole à la salle pour pouvoir apporter vos propres convictions et puis vos questions, j'aurais voulu, parce que la question était un peu renvoyée à Monsieur Tomaso, est-ce qu'il y a effectivement, selon vous, 2 projets européens ?
D'abord, je veux dire que je suis enthousiasmé par les propos de Jean-Louis Bourlange et que on aimerait bien que le débat entre nous commence à partir de nos 2 présentations qui sont très différentes et en même temps ont beaucoup de choses en commun. Sur le point spécifique, je veux réfléchir plus à fond sur ce que Jean-Louis Bourlange a dit, mais ma première réaction est que l'essentiel, l'esprit de l'Union conçue en 1950, à mes yeux, est la synthèse ou la composition de cette tension. Ce n'est pas un choix, et d'ailleurs, c'est les 2 personnalités qui incarnent ces 2 conceptions qui sont Robert Schuman et Jean Monnet sont les 2 personnes qui travaillent ensemble oui. pour le projet qui naît en 1950. Oui. Je Je vous ai donné cet article que je viens d'écrire, qui a pour titre dans la revue Commentaire « Demos et Kratos en Europe ». Permettez-moi de lire quelques lignes qui sont exactement sur ce point. Ce que les gouvernés ont en commun avant toute chose, ce n'est pas une affinité de goût et de coutume, une sympathie réciproque ou un esprit de renoncement. C'est la tension entre deux opposés, la proximité, la contiguïté, la dépendance réciproque d'un côté, mais en même temps la diversité de préférences et d'opinions, l'hostilité potentielle, la tendance permanente à trahir ses engagements et à prévariquer. Donc, exactement les deux éléments de votre... Et à mon avis, l'union est la raison pour laquelle un démos, qui est un démos de copropriétaires qui ne s'aiment pas, mais qui ont quand même en commun l'immeuble où ils vivent, a besoin d'un kratos, c'est-à-dire d'un pouvoir qui compose cette tension. Et c'est ça la démocratie, qui est la composition de ces deux éléments. Donc, je reconnais pleinement la tension... Mais et je ne suis pas convaincu que la solution est de faire le choix pour un élément à l'exclusion de l'autre.
Je suis d'accord. Hein, si j'ai donné à penser ça, j'ai forcé la conclusion. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un équilibre et que cet équilibre est dangereusement menacé aujourd'hui.
Alors on va laisser Monsieur Padoa-Schioppa finir son propos.
Non.
Alors on va donner la parole à la salle parce que le temps court. Il y a un micro qui va arriver de tout en haut, voilà, qui est prêt à servir. Donc n'hésitez pas soit à porter votre pierre au débat, soit à poser une question de manière brève pour qu'on puisse en faire passer plusieurs. Voilà, devant, un peu au milieu, voilà, on fait passer...
Service...
Non, parce que tout le monde ne vous entendra pas. Voilà. Attendez le micro et...
Merci. Je voudrais savoir quels sont vos sentiments sur l'entrée éventuelle de la Turquie en Europe et éventuellement de l'élargissement à certains pays.
Merci. On va prendre peut-être deux autres questions. Voilà. Vous levez bien le doigt pour que le... porteur de micro puisse le voir, et puis... Non. Bon, alors allez-y, monsieur.
Pour moi, la question, est-ce que les rapports nord-sud et est-ouest sont importants et ne nous permettraient pas de revigorifier l'Europe?
Merci.
On a bien compris le diagnostic. Quelles sont les mesures pratiques, les actions pratiques que vous suggérez aux citoyens européens moyens convaincus?
Voilà, on va s'arrêter là parce que je crois qu'il y a déjà matière pour l'instant. Alors, il y a la question de la Turquie. On devine un petit peu qu'il peut y avoir deux positions peut-être un petit peu différentes. Le rapport Nord-Ouest et puis finalement, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelles mesures pratiques pour faire redémarrer cette Europe? Alors, je ne sais pas qui se sent peut-être sur l'une des questions... Je vais peut-être laisser la parole...
Je vais répondre rapidement surtout. Mais sur la Turquie, je crois qu'on va... c'est pas la peine d'avoir un débat pour les avantages et les inconvénients de l'entrée de la Turquie. Je crois que, moi, ce qui me frappe, c'est que ce problème est d'emblée mal posé. Il est mal posé. D'abord, il a été mal posé à Helsinki. Les Européens ont accepté d'ouvrir la négociation sans aucune sorte de débat. Un pays massif, présentant tout un ensemble de pays éminemment respectables, très intéressants, etc., présentant un ensemble de caractéristiques tout à fait impressionnantes par rapport à l'ensemble des pays européens jusqu'à présent, on a dit non, ils rentrent. Pourquoi? Simplement parce que les Grecs ont cessé de jouer les boucs émissaires dans cette affaire et de s'opposer, et que le chancelier allemand avait changé et qu'il avait des raisons de souhaiter ménager sa minorité turque chez lui. Bon, c'est très bien, les raisons politiques sont tout à fait avouables, mais il n'y a eu aucun débat. Et cette absence de débat, à mon avis, est grave. D'abord parce qu'on s'est mis dans un système insoluble. Aujourd'hui, on ne peut ni sortir, ni aboutir. Et on bâtit jour après jour
une situation dans laquelle les relations sont totalement empoisonnées avec la Turquie, qui elle-même dérive, pour des raisons, peut-être l'Europe joue-t-elle un rôle pas partiel, mais des raisons très très complexes. En réalité, les partisans de l'entrée de la Turquie, c'est un peu comme l'histoire de Bernard Shaw et de la belle anglaise idiote qui lui demande de faire un enfant. Il dit « ça serait magnifique s'il avait votre esprit et ma beauté ». Et Bernard Shaw lui dit « mais imaginez le drame si c'était l'inverse ». Eh bien, la Turquie, on dit « il faut qu'il soit laïque comme les kémalistes et démocrate comme l'AKP ». Et imaginez l'inverse, imaginez qu'il soit nationaliste comme les kémalistes et qu'il soit intégriste comme les musulmans durs. Et c'est pas du tout impossible. Quand vous regardez la façon dont évolue à travers l'affaire Ergenekon actuellement la politique intérieure turque, on n'est pas du tout à l'abri de choses comme ça. Donc on est en face de quelque chose de très lourd, de très dangereux, de très très mal perçu, très mal analysé. On n'arrivera jamais à faire entrer la Turquie, à imposer ça à l'opinion française avant très longtemps, et on est donc vraiment dans une situation très fausse. Surtout, et c'est ça le grand reproche fondamental que je fais, c'est qu'on n'a jamais posé la question de l'incidence de l'introduction d'un corps aussi massif que le corps national turc dans l'Union européenne. Il est évident que si vous faites rentrer la Turquie, ce que les Britanniques ont parfaitement compris, vous changez tout. Je ne dis pas que vous changez tout en mal. Je vois très bien les avantages, je ne vais pas les énumérer ici, que représenterait l'entrée de la Turquie. Mais vous changez tout. Il n'y a pas une politique qui tienne la route. Il n'y a pas un budget qui puisse fonctionner comme il fonctionne. La politique agricole est fondamentalement remise en cause. La politique d'immigration, la politique de circulation intérieure, tout est profondément perturbé. Moi, je veux bien qu'on perturbe. Je veux bien je crois que toutes ces politiques sont un peu épuisées et qu'il est peut-être sain de les repenser. Mais on ne les repense pas. On applique à la Turquie les mêmes numéros qu'on applique toujours. On a une liste de chapitres dans lesquels on dit « vous respectez la condition 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Si vous respectez, on ferme. Ce n'est pas ainsi qu'on peut faire une Union européenne avec la Turquie. La Turquie, c'est quelque chose qui modifie fondamentalement l'esprit, les contours, l'organisation de l'Union européenne. Je trouve qu'on a le droit à un vrai débat sur ce que serait l'Europe sans la Turquie, et sur ce que serait l'Europe avec la Turquie. Ce débat n'existe pas. Sur le Nord-Sud, oui, bien sûr, il faut faire du Nord-Sud et de l'Est-Ouest. La grande erreur française, inspirée par M. Guénot, n'a pas été de vouloir faire du Nord-Sud, ça a été de vouloir faire du Nord-Sud à partir de la France, par dissociation de l'Allemagne, qui était réputée faire de l'Est-Ouest. En réalité, le pari européen, c'est exactement l'inverse, c'est que l'Allemagne doit faire du Nord-Sud et que la France, l'Italie, l'Espagne doivent faire de l'Est-Ouest. Donc là, on a perdu un an et demi, on a pris cette initiative française et on est revenu à la case départ, c'est-à-dire Barcelone, tel qu'on l'était avant. Quant aux mesures pratiques, alors il n'y a jamais de mesures pratiques dans la vie, mais il y a un problème numéro un, c'est le franco-allemand. Ça, je crois que le moteur franco-allemand est profondément, profondément grippé. Je ne suis pas de ceux qui reprochent aux Allemands leur politique macroéconomique. Je crois que c'est ridicule d'imaginer, on va pas demander aux Allemands, vous produisez des machines-outils, vous n'avez qu'à offrir des machines-outils à votre peuple. Évidemment, les Allemands, ils aiment bien un tas de trucs, mais ils mangent pas des machines-outils à tous les repas. Donc si vous produisez des machines-outils, vous les vendez aux Chinois, aux Indiens, à tout le monde, etc. Donc on va pas reprocher aux Allemands de vendre ce qu'ils savent faire et de faire ce qu'ils font. On va pas leur reprocher non plus de gérer un peu mieux leurs comptes qu'un certain nombre d'autres pays, et on va pas leur reprocher d'être attentifs à leurs coûts de production. En revanche, oui, on est fondé à s'interroger sur la façon dont l'opinion allemande, la presse allemande et même la chancelière allemande pensent sa solidarité politique au sein de l'Union européenne. Et là, il est clair que la zone euro, c'est quelque chose qui ne peut pas se limiter à la zone euro, à la gestion de l'euro. C'est quelque chose qui a des implications politiques et nous vivons cela. Et quant à nous, Français, nous pourrions peut-être en faire entendre ce discours si nous étions un peu plus sérieux, un peu moins désinvoltes, un peu moins discontinu. Si nous Nous avions effectivement, je ne parle pas du bouclier fiscal, c'est anecdotique en fait, tout le monde s'excite là-dessus, on ne sait pas pourquoi maintenant, mais d'une façon générale, si nous avions choisi en 2007, ce que j'aurais espéré que le président fît, et ce qu'il n'a pas fait, si nous avions choisi le retour à la rigueur budgétaire, à des économistes qui nous mettraient évidemment en position beaucoup plus forte aujourd'hui pour parler. Nous ne sommes pas, nous Français, des partenaires suffisamment sérieux pour être crédible auprès des Allemands, et les Allemands sont un peu, on va parler comme l'Évangile, les Allemands sont des pharisiens, alors il ne faut pas reprocher aux pharisiens de bien faire, il faut leur reprocher leur manque d'humilité. Et nous, nous sommes des publicains, à ceci près que nous sommes des publicains non repentants.
Merci Jean-Louis Bourlange. Monsieur Padoa-Schioppa.
Je serais totalement incapable de rivaliser en brillance, même si je pouvais parler en italien devant Jean-Louis Bourlange. Imaginez-vous si je dois parler en français. Et question de la Turquie. Et je crois que si on me pose la question, est-ce que je suis en faveur ou contre l'entrée de la Turquie, ma réponse la plus sincère serait de dire que je ne sais pas. Mais je ne sais pas s'il faut avoir une réponse très claire à ce stade. D'abord, la Turquie a gagné son droit à être pays candidat par une stratification d'évolution historique dans l'après-guerre qui se sont à peu près conclues aujourd'hui. C'était une Turquie essentielle pour l'Alliance Atlantique et un pays démocratique. Et petit à petit, on a créé un tel capital d'anticipation et d'espoir que quand le moment est venu, il aurait été quasiment impossible de dire non. Mais en même temps, on a ouvert un processus qui durera très longtemps. Tout le monde sait qu'il durera très longtemps et qui se déroulera dans un contexte complètement différent par rapport à celui dans lequel la stratification que je viens de décrire s'est produite. Il n'y a plus la menace de la guerre froide, la Turquie n'est plus essentielle pour la défense de l'Occident. Elle est peut-être encore beaucoup plus essentielle pour l'évolution des pays islamiques autour de la Méditerranée. En même temps, la Turquie a cessé d'être un pays farouchement islamique et laïque, et sa manière d'être un pays, il faut dire que le caractère laïque du régime turc fait partie de la tradition, disons, de la lutte anti-religieuse de la première partie du XXe siècle. Et la Turquie n'est sortie de cette phase que très récemment. C'est la phase de la démocratie chrétienne dans nos pays, une phase positive à plusieurs égards, qui d'ailleurs a contribué à une conception de la laïcité de l'État plus mûre que celle qui avait précédé cette phase. Et donc, peut-être la Turquie a une mission à accomplir, même une mission de pays guide parmi les pays islamiques autour de la Méditerranée. Et je n'exclus pas du tout que l'intérêt réciproque de l'Union européenne et de la Turquie ne soit pas l'entrée de la Turquie dans l'Union, mais deux rôles complémentaires dans les deux parties de cette région au sud et au nord de la Méditerranée. Et il est tout à fait possible, à mon avis, que les 15, 20 ans, 10 ans que la négociation du pays candidat prendront puissent être exactement le cadre de cette évolution qui aboutirait non pas à l'entrée dans l'Union, mais peut-être à la création d'une Union jumelle à côté de la nôtre. Cela dit, la Turquie fait partie de l'histoire d'Europe. Hein. C'est vrai, c'était l'ennemi historique. Mais le Royaume-Uni était l'ennemi historique de la France pendant des siècles. Il y a eu des guerres. Il y a des différences, je sais bien. Mais il y a eu des guerres de religion dans à l'intérieur du continent européen, et un des rares endroits où il y a encore une guerre de religion sont les îles britanniques. Donc la réalité est très complexe. Sur la question nord-sud et est-ouest, je suis d'accord sur ce que Jean-Louis Bourlange a dit. Le point essentiel est que dans chacun de ces deux domaines d'action de la politique étrangère, il n'y a pas une politique étrangère de l'Union. Il y a des politiques étrangères des États membres. Et donc la réponse est celle que Jean-Louis Bourlange a donnée. Il faut qu'il y ait une politique de l'Union. Et ceux qui n'ont qu'une des deux politiques doivent se donner l'autre et participer à la formation d'une politique de l'Union européenne. Troisième question, quelles mesures pratiques aujourd'hui? On peut dire deux choses. D'abord, à mon avis, je ne l'ai pas dit dans mes propos introductifs, mais moi je suis convaincu, et là je suis beaucoup moins, je suis peut-être plus positif dans ma manière de voir les choses que Jean-Louis Bourlange. Je crois que le pire est passé. Je crois que on voit le début d'une reprise positive. Et d'ailleurs, les éléments que j'ai énumérés dans mon exposé indiquent cela. La crise même est un facteur de prise de conscience et oblige à une vision plus positive, non pas par volonté pour le moment de construction, mais par réaction au risque de destruction, qui est extrêmement fort, de destruction même de l'euro, à la limite. Et cette prise de conscience dans les dernières semaines a été très rapide en Allemagne. On a compris très vite, à mon avis, parce que ça a pris des semaines, pas des mois ou des années, que la Grèce menace non pas sa propre stabilité, sa propre participation à l'euro, mais menace la monnaie de l'Allemagne. Et donc, si l'Allemagne, finalement, s'est décidée à participer à une action de soutien, ce n'est pas par altruisme, c'est à cause de la reconnaissance que le risque est à l'intérieur même du pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas étrange, parce qu'une grosse partie de la dette grecque est détenue par des banques allemandes, par des épargnants allemands. Donc, la question, quelles mesures pratiques? Je crois, en partie, elles sont dictées par l'actualité, par la crise aujourd'hui. Mais si Jean Monnet était parmi nous, probablement, il trouverait ce qu'il appelait le point unique, limité, concentré, qui peut constituer le levier d'un changement et le déclencheur d'un processus d'union, tel que le charbon et l'acier l'avaient été en 1950. Et à l'intérieur du domaine économique et financier, on voit quelques signes. Il y a une action pour la Grèce, il y a la discussion de la gouvernance ou du gouvernement économique. C'est curieux que dans les conclusions du Conseil européen dernier, ce débat sur le gouvernement économique, qui d'ailleurs touche de près ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut la partie publique et pas seulement la partie marché pour une union, le mot-clé a été traduit gouvernement en français, governance en anglais, Steuerung en allemand. Donc trois traductions très différentes. On n'a pas parlé de Regierung en allemand, on n'a pas parlé de government. Chacun a été satisfait par le mot qui lui déplaisait le moins ou qui lui plaisait le plus. Ça montre les vertus de l'ambiguïté et le fait que le débat doit vraiment commencer. Mais cette ambiguïté est un signe positif, à mon avis, du fait qu'on ne peut pas éluder ce débat maintenant, et on verra quel est son aboutissement, et ma conclusion reste que l'avenir est ouvert et que c'est à nous de le de lui donner une forme. Merci.
Alors, on va reprendre le micro pour peut-être une ou deux dernières questions avec des réponses qui seront très, 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 très rapides. Monsieur Jean-Louis Bourlan, je souhaitais dire en une seule phrase, on va voir s'il... C'est bien, il l'a écrite, sinon on s'en serait pas sorti. Il va nous dire en une seule phrase, il voulait faire un commentaire.
Sur la Turquie, je voulais ajouter un élément au débat. Je crois qu'il faut bien voir que l'attirance de la Turquie pour l'Union européenne est assez largement un effet de l'insignifiance actuelle du projet européen. Et que si l'Europe affichait, je vous demande d'y réfléchir, une authentique volonté fédérale, oui, la Turquie ne serait pas candidate.
Bien, alors, peut-être une dernière question. Oui, monsieur.
Oui, je voulais vous demander une crise qui est rarement évoquée dans la question européenne.
Parlez bien dans le micro. Pourquoi?
Pardon. Une crise qui est rarement évoquée dans la question européenne, qui est la division de l'Europe à propos de la guerre d'Irak. Et je voulais vous demander si cette crise n'est pas révélatrice du fait que l'Europe n'est, dans le fond, jamais capable de se mettre d'accord quand il y a une question d'une certaine importance.
Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question aussi? Voilà, devant. Et puis on en restera là avec ces deux dernières questions. Voilà, on peut peut-être faire passer le micro.
Oui, ma question est sur le thème du même et de l'autre. Dans son livre, je me souviens plus de l'auteur américain qui a écrit Le choc des civilisations, c'était pas Fukuyama, c'était un autre. Bon, voilà. Il semblait tracer une frontière qui pourrait être la frontière du même, qui est une frontière qui reposait largement sur la culture et sur les religions. Et cette frontière en Europe comprenait les pays de tradition romaine catholique, éventuellement certains protestants, et rejetait les musulmans et les orthodoxes. Donc je voulais savoir, peut-être la question est plus pour Jean-Louis Bourlange, s'il était d'accord avec ce rideau, qui n'est pas de fer, mais qui était un rideau culturel.
Voilà, donc la question des divisions de l'Europe, cette incapacité à s'entendre, à se mettre d'accord, avec l'exemple de la guerre d'Irak, et puis celle finalement des frontières de l'Europe, l'Europe catholique, l'Europe chrétienne... Est-ce que ça représente quelque chose? Peut-être monsieur Padoa-Schioppa.
Sur la guerre en Irak, l'Union européenne n'était pas plus divisée que ne l'était la Grande-Bretagne à son intérieur, ou la France, ou l'Italie, ou chaque pays. Dans chaque pays, l'opinion publique était divisée.
Mais contre la guerre majoritairement.
Oui, peut-être contre la guerre, mais il n'y avait pas... La division était un phénomène purement institutionnel, était le reflet d'une construction institutionnelle dans laquelle la copropriété n'avait pas la capacité de prendre une décision commune. Donc, à mon avis, on ne peut pas, sur cette division, fonder un jugement selon lequel les temps ne sont pas mûrs pour l'Union. La conclusion à tirer est exactement l'opposé. Les temps étaient tout à fait mûrs et exigeaient une construction institutionnelle sans laquelle une seule politique était impossible. La thèse de Huntington et l'affrontement des civilisations, je ne crois pas que c'est un paradigme utile, je le considère même dangereux. Le problème, encore une fois, est ne pas d'aller d'accord avec le même, et de trouver un accord avec l'autre. Le besoin d'un gouvernement, d'un pouvoir, existe parce que on a en commun le besoin de résoudre ces différences par des moyens, comment dirais-je, non violents, non, qui ne se fondent pas exclusivement sur la force. Si tout le monde était d'accord, si tout le monde appartenait à la même civilisation, ce qui d'ailleurs est tout à fait un rêve, parce que justement on a vu en Europe et on voit encore, par exemple, les guerres de religion. Si l'harmonie existait d'une manière spontanée, on n'aurait pas besoin d'un gouvernement et d'un pouvoir.
Monsieur Bourlange.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur l'Irak. Hein. Je crois que, en plus, il y a la surdétermination américaine là-dedans, et le fait qu'on a eu une Amérique qui, pour la première fois, a joué la division de l'Europe, et en plus a adopté une attitude vraiment assez extrémiste, qui était quand même très préoccupante. Enfin, mais je pense qu'en réalité, on voyait bien, les peuples européens étaient en majorité hostiles à l'intervention américaine, et ce ne sont que des chancelleries pour des raisons différentes, les unes des autres, qui ont choisi ça. Sur la question, la question est évidemment à la fois provocatrice et stimulante. Je me rappelle à une réunion de Saint-Simon, du club Saint-Simon, Emmanuel Leroy Ladurie avait dit « Tiens, ça serait amusant d'arrêter l'Europe aux filles au couet. » C'est-à-dire à l'orthodoxie. Et là, on voit bien quand même... Alors, il ne s'agit pas du tout de faire ça. On ne va pas commencer à dire « Vous êtes orthodoxe, vous n'êtes pas... » C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais il est intéressant de repérer un certain nombre de constantes dans les États. Et effectivement, on voit bien que l'Europe s'est construite, en réalité, à partir de l'évangile de « Rends à César ce qui est à César », s'est construite sur, notamment, l'affirmation du dogme trinitaire. Le dogme trinitaire, en proclamant l'égalité du Fils par rapport au Père, la divinité du Fils, reconnaît en réalité une dialectique entre l'homme et Dieu qui fonde l'autonomie du pouvoir temporel par rapport au pouvoir spirituel. Ceci sera repris, développé, admirablement théorisé par saint Thomas et par tout un ensemble de théologiens. Et on voit bien que ce qui caractérise en propre le mouvement de l'Europe, c'est cette dissociation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Alain Besançon constatait que il n'y avait pas d'équivalent de la querelle du sacerdoce et de l'Empire, ou de la lutte de Philippe le Bel et de Boniface VIII, il n'y avait pas d'équivalent dans d'autres civilisations que cette dialectique complexe, qui ne va pas d'ailleurs sans tension, sans conflit, et ce qui caractérise l'Union européenne, ce qui caractérise le développement de la civilisation européenne, a été sans doute magnifiquement formulé, je suis désolé de le dire, devant un membre de la Compagnie de Jésus, par Pascal.
Vous êtes vraiment désagréable.
Oui, oui. La théorie des trois ordres, et effectivement l'autonomie de l'ordre temporel, de l'ordre des corps, de l'ordre de l'esprit et de l'ordre du cœur, de la charité, c'est constitutif de la réalité européenne, et c'est pourquoi Le Goff a, je crois, raison de dire que la laïcité est un aboutissement de cette évolution et non pas du tout sa négation. C'est pour ça que je ne comprends pas la querelle entre les origines chrétiennes de l'Europe et l'affirmation de la laïcité. À ce moment-là, effectivement, la querelle du filioque se pose de façon intéressante, et je crois que derrière l'orthodoxie, on retrouve quand même un très très vieux clivage. On retrouve le clivage de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire romain d'Occident, on retrouve le clivage d'Axium entre Antoine et Auguste, et on retrouve le clivage entre un héritage gréco-romain et un héritage gréco-persan hellénistique, et avec l'intégration de valeurs asiatiques, d'États très très profonds. Donc on a vraiment des histoires assez différentes, et on voit bien qu'on a des difficultés avec des pays qui n'affirment pas très clairement cette distinction du spirituel et du temporel. Je me souviens parfaitement, par exemple, des difficultés qu'on avait avec la carte d'identité grecque, où les Grecs exigeaient qu'on mette la religion. Et je me souviens de Jean Kahn qui disait « Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre juif sur nos cartes !»
on a déjà connu, ça va pas. Elle me dit, on pourrait ne rien mettre du tout. Je lui avais dit, mais si vous mettez rien, vous aurez l'air juif. Ah, elle me dit, ça, c'est embêtant. Même chose, quand même, le gouvernement de Mitsotakis est tombé sur l'affaire de la nomination de la Macédoine parce que le clergé orthodoxe grec a fait une campagne d'un nationalisme absolument effrayant portée par un politicien qui s'appelait Samaras, si je me rappelle bien, et qui a provoqué la dislocation du parti de la nouvelle démocratie de Mitsotakis. Et de même, quand vous regardez l'Union soviétique ou la Russie, vous avez un exemple parfait de collusion entre un pouvoir politique et un pouvoir religieux. Alors maintenant, c'est le pouvoir de l'Église orthodoxe et de Poutine. Avant, c'était le diamat, une belle religion, le matérialisme dialectique, et puis le grand prêtre qui était Mikhaïl Souslov, et une organisation temporelle. Alors, il faut surtout pas dire maintenant, alors les gars, soit vous devenez catholique romain, ou au moins uniate, soit vous restez dehors. Ça, c'est pas comme ça que ça se présente. Mais il faut être très attentif à poser, à prendre la mesure de cette exigence de, je dirais, de laïcité, si, pour parler d'une certaine façon, et de distinction, de séparation du temporel et du spirituel pour, en se référant à une culture différente, mais je désigne la même réalité à travers ces expressions différentes.
Je crois qu'on pourrait continuer très longtemps ce soir avec nos invités jusqu'au cœur de la nuit pour parler de l'Europe. On va quand même en rester là. Un très grand merci, Monsieur Padoa-Schioppa et Monsieur Jean-Louis Bourlange. Un très grand merci de nous avoir donné envie de ne pas baisser les bras malgré toutes les difficultés, d'y croire encore, d'y croire quand même, et aussi peut-être à partir de là d'interroger aussi nos responsables politiques nationaux sur leur engagement et sur leur choix politique européen. N'hésitez pas à revenir le prochain mardi du mois de mai, ça sera je crois le mardi 4. Si tout va bien, nous serons sur la thématique de la situation dans les prisons françaises, sujet qui n'est pas plus simple et sûrement encore moins facile et moins drôle et très douloureux. Vous trouverez, comme à l'habitude, une urne à la sortie pour soutenir, sinon l'Europe, en tout cas au moins ces soirées d'éthique publique. Merci de votre attention et bonne soirée.